Bonjour, François Strossard et la belle équipe en piste de 12h50 à 13h58 pour une récré littéraire enregistrée en public au studio 105 de la Maison de la Radio le 30 septembre dernier. Une récré ambiance Vive la sociale, titre emprunté à l'ami Mordilla. Avec moi sur scène, Pablo Gignoli, l'homme qui ne sort jamais sans son bandoneon. Et les papous du jour, Lucas Fournier, Eva Almassi, Patrice Caumont, Patrick Beignet, Jeanne Carillon, Patrice Delbourg, Hervé Le Tellier et Patrice Minet. Photo à découvrir à la page des papous sur franceculture.fr et sur Facebook. Dans l'ambiance douce et complice du petit studio 105, tout a commencé avec un aperçu du programme imaginé et chanté par Jeanne Carillon sur l'air de la valse à mille temps de Brel. Jeanne et bien sûr, pour l'accompagner au bandoneon, Pablo Gignoli.
Au premier temps du programme, toute seule, je chante pour toi. Au premier temps du programme, il y a toi, tes oreilles et ma voix, et mon cœur qui bat la chamade d'être là, à nu devant toi. Et mon cœur qui bat la chamade me chantonne tout bas. Ce programme des papous qui s'écoute avec vous, qui se valse avec vous le temps d'une émission, qui cherche le frisson plutôt que les chaussons. Ce programme des papous, on est bien dit sans tout, on est bien dit sans tout à jouer du bagou ou même du biniou plutôt que du coup de mou. Ce programme des papous qui se chante avec vous, qui milite avec vous, c'est vive la sociale, travailler l'encéphale, c'est notre rendez-vous, c'est votre rendez-nous, c'est notre chanter tous. Ces notes, ça vaut le coup tout au long du programme. Oyez, messieurs, mesdames, sautant rien que pour vous. Au deuxième temps du programme, il y a vous, vos rires et nos voix. Au deuxième temps du programme, nous comptons sur vous et vos choix. Et les mots qui claquent sur la langue, les mots que l'on pêche malgré soi, et les mots qui claquent sur la langue nous bousculent parfois. Ce programme des papous qui s'étoffe avec vous, qui s'étoffe avec vous le temps d'une émission du côté de la langue, comme c'est grisant ce programme des papous. On est bien dit sans tout, on est bien dit sans tout, et même plus avec vous qui êtes au rendez-vous pour jouer avec nous, avec Lucas Fournier, comme mon Patrick Beignet, et Eva Almassi, et Pablo Gignoli, Patrice Minet-Delbourg, et Hervé Le Tellier, Françoise va nous guider. Tout ça va cogiter, tout ça va chahuter, peut-être bien qu'on va se marrer, peut-être bien que ça va rimer, et sûrement pasticher. Au dernier temps du programme, la lumière s'éteint sur nos voix. Au dernier temps du programme, les micros se coupent déjà, et le trac qui bat la mesure, le trac qui mesure notre émoi, et le trac qui bat la mesure s'en retourne chez soi. Cette séance des papous qui se danse avec vous, qui milite avec vous le temps d'une émission, clin d'œil à Mordilla, comme cet extra, cette séance des papous. Pourvu qu'il y ait du remous, pourvu qu'il y ait du remous et un grand coup de grisou, mais aucun coup de bambou, sinon on se dissout. Mais y a Pablo qui joue, et qui joue comme un fou, et qui joue comme un fou, pourvu que je tienne le coup de cet air jusqu'au bout. Mais pour marquer le coup, je m'accroche à ses croches, m'accroche à la partoche. Je sais bien que je suis cloche d'avoir autant la pétoche quand je suis devant vous à chanter au papou. La 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 la.
Alors là, je vais un petit peu jeter un froid parce qu'on va parler licenciement. Vive la sociale, il y a les employés, il y a les patrons. Et j'ai demandé à Lucas Fournier aujourd'hui, bon, c'est un gentil garçon, il est même plutôt joli garçon, non, Lucas ?
C'est vrai.
C'est vrai. De nous écrire une lettre de licenciement. Alors, quelles sont les circonstances et qui êtes-vous, Lucas ?
Je m'appelle Charles Manet.
Comme le peintre.
Ah, vous oui. connaissez ?
Oui, un petit peu.
Non, parce que chez moi, personne ne connaît Manet.
Ah bon.
Je m'appelle Charles Manet et... Oui. Vous avez vu les chiffres de l'emploi, c'est pas bon, les feuilles tombent, les lettres de licenciement aussi, et moi-même je suis victime de cela. Mais comme c'est désagréable de recevoir une lettre de licenciement, autant qu'elle soit écrite par quelqu'un de sympathique et qui
C'est vrai, c'est mieux.
Donc je me l'écris moi-même.
Ah.
C'est mieux, c'est un auto-licenciement.
Auto-limogé.
Oui.
Ouais.
Et donc voici cette lettre. Cher Charles.
C'est vous.
Ce matin, à l'heure où blanchit la campagne, quand le réveil a sonné à 6 heures, n'as-tu pas songé qu'elle était bien cruelle, cette petite stridulation acide, et que malgré la promesse de l'aube, rester au lit n'aurait pas été si mal ? Tu as pensé ça, hein ? Oui, un peu. Alors Charles, peut-être que ta motivation professionnelle, cette énergie d'un Français qui se lève tôt pour aller travailler, cette énergie-là serait moins forte qu'avant ? Et puis ensuite, sur les quais venteux de la gare de Crépinette-sur-Moissy, quand tu as vu que ton train avait 22 minutes de retard et face à l'accablement de tes autres compagnons de voyage, n'as-tu pas songé un instant à la douceur d'aller vivre là-bas où tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté ? Hein ? Tu ne dis pas non, Charles ? Cela signifierait-il que tu pourrais envisager un peu de mobilité professionnelle ? Et quand parvenu enfin dans le sas d'entrée de la tour Futuris, dont le 124e étage abrite la KIF, la compagnie d'investissement financier qui t'emploie depuis 14 ans, deux septennats, oui là, après avoir badgé face aux vigiles à qui personne ne jette jamais un regard, et devant tous ces jeunes cadres rutilants qui se ruent vers l'ascenseur et leur destin managérial avec leur certitude et leur iPad, ne t'a-t-il pas effleuré l'idée ? Ne t'a-t-il pas effleuré l'idée que tu n'étais pas tout à fait comme eux ? Alors, on se sentirait moins solidaire du formidable Team Spirit qui anime la kiff. Et puis quand ton ordinateur a craché la liste des emails de la matinée qu'il faut forwarder à zap en checkant le wording avec un reply all pour que chacun soit dans la boucle, n'as-tu pas un instant levé les yeux de l'écran pour regarder par la fenêtre les nuages, les merveilleux nuages ? Signe peut-être, Charles, que tu serais moins concentré sur ton objectif professionnel, que tu t'écarterais de la roadmap que tu as updatée avec ton chief executive dans une démarche bottom-up et agile. Agile. Et enfin, quand tu as célébré avec tes collègues et ton directeur devant des godets en plastique emplis de vouvray tiède, le départ de Marie-Christine Touchard, comptable depuis 20 ans. Chère Marie-Christine, ce n'est pas sans émotion que nous levons le verre de l'amitié pour ce départ. Après une longue fidélité à l'entreprise, et avant de vous souhaiter bon vent et de vous remettre au nom de tous cette super paire de bâtons de marche dont vous allez enfin pouvoir profiter pleinement dans vos journées inoccupées, je voulais vous dire que la porte de la kiff sera toujours ouverte. Et là, tu as pensé que cette porte, on l'avait ouverte toute grande pour la foutre dehors, Marie-Christine, et que demain, ce serait toi, Charles, qui allais y passer. Tu l'as pensé, ça, hein ? Ça veut dire que tu ne crois plus vraiment au projet de l'entreprise, lieu d'épanouissement des hommes et des femmes. Mais c'est très mal de penser comme ça, Charles. Et puis après, quand le consultant a réuni toute l'équipe pour vous préparer au réaménagement des locaux, afin que vous appreniez à vous réapproprier l'espace et le projet, ce nouveau clapier où on va vous installer, est-ce que tu n'aurais pas eu une réminiscence d'espèce d'espace de Georges Perec ? Oui, tu l'as eu, Charles. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es désolidaire du travail d'audit d'un consultant international qui n'a pour objectif que d'optimiser l'excellence de la kiff ? Comment ça, les consultants sont des malades et pas ceux qui prétendent les soigner ? Ainsi, tu douterais de ton entreprise où les mots ne sont plus les mots, mais c'est une rupture épistémologique, Charles. La fin du contrat social, du vivre ensemble dans l'entreprise. Et enfin, quand Soliveau du service client est passé te confier sa plante verte et te dire qu'il était restructuré, mais tu n'as pas accusé la voracité des actionnaires, non ? Tu sais bien que le grand capital apatride n'y est pour rien, Charles, et que l'actionnaire s'en fout de Soliveau. Ce n'est pas Schumpeter qui anime le monde, non, la cupidité, simplement. Toi, tu as lu Balzac, non. La comédie humaine est toujours la même. Solène Chaman qui couche avec le directeur voulait le poste de Souliveau, elle l'a eu. Tu t'es dit, afin de cacher une infamie, on met sur un forfait des mots appris dans une école de management pour illettrés. Oui, et ben à ce point de ta pensée, mon prof Charles, tu es perdu pour la vie professionnelle. Pourtant, Charles, tu ne recevras pas de lettre de licenciement. Non, n'embête pas la DRH avec ça. Tu vas juste monter dans le bureau du président. Job Mulder, le patron de la KIF, au 125e étage de la tour Futuris. Attends 20h un vendredi, il reste tard. Entre ses déjeuners, ses sorties, ses meetings, ses boards, il est très pris. Sa PA, Personal Assistant, sera partie. Bref, vous serez seul. Il te dira « Ah, bonsoir Charles, non, vous tombez mal, j'attends un call. » Ici, on s'appelle par son prénom avec un sourire. Hein. Il te fera asseoir quand même. On lui a appris dans les écoles de management à respecter le petit personnel avec bienveillance. Tu resteras debout. Tu lui montreras cette lettre. Ben, il ne comprendra pas. Alors, tu lui diras cette phrase. « Monsieur Mulder, je suis venu vous faire mes adieux. » Et tu poursuivras. « Il est 21h, monsieur Mulder. Nous sommes seuls dans l'immeuble. Oh, il y a un énorme cendrier sur votre bureau. » C'est interdit de fumer au bureau, même le cigare. Mais pour vous, il est interdit d'interdire. Et supposez que ce gros cendrier trop lourd pour ma petite main m'échappe et s'écrase sur votre visage, monsieur Mulder. Oh, on dira, mais il a pété un câble, le petit Manet. Ah oh, oui, mais ça, c'est à cause de son copain Soliveau et du départ de madame Touchard. Oh, puis de toute façon, c'était un trotskiste. Hein. Il sera peut-être arrêté. Mais la tronche de Mulder, elle ne sera plus jamais comme avant. Alors Mulder demandera... Mais vous voulez quoi? Et toi, Charles, tu lui diras un petit cadeau de départ. Écrivez sur votre chéquier la somme que vous gagnez chaque mois, monsieur Mulder. Et puis mettez un zéro de plus à la fin et on se quitte. Et puis, Charles, tu sortiras avec ton chèque à la main et juste avant de refermer la porte derrière toi, tu te retourneras vers ce pauvre Mulder, assez secoué quand même, et tu les lâcheras. Au revoir, Job. Je savais bien qu'on s'entendrait tous les deux, vous et moi. Dans le fond, on est pareil. On est des escrocs. Allez, je vous remercie de votre attention.
C'est une lettre modèle qu'on tient à votre disposition sur le site et pas de vous. Si vous en avez besoin un jour, comme tout le monde. Alors, je ne sais pas, Patrice Caumont, si vous êtes le patron de Lucas Fournier. Non, je ne crois pas. Mais en tout cas, parmi nous, dans notre petite équipe, vous êtes celui qui a eu un jour la casquette de patron, en plus de celle d'aquariste distingué, etc., etc. Il a le look du patron, quand même. Il en a le sérieux. Il est... Enfin, on n'est pas tous comme vous, Patrice Caumont. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de traiter le mot « patron » pour notre petit Riemayer illustré. Alors, le traiter dans toutes ses acceptions, mais bien sûr aussi avec votre subjectivité.
Oui,
d'accord.
Absolument.
Donc, vous l'avez traité de quelle façon, sous quelle forme?
Mi-cornélienne, mi-hugolienne.
Oui, en toute simplicité.
Avec au milieu un petit rap, le rap patron.
D'accord.
Pour,
très, très bien.
Dynamiser.
Ouais.
Tout de suite, un léger rappel qui s'impose illico, car syndical n'est point le saint patron des dicos. Entre les saints patrons, c'est la guerre des chefs. Syndicat souffle le cierge de saint bénef et sainte taxe pille le tronc des dividendes. Pour l'augmentation, c'est saint glinglin aux commandes. Oh, combien de patrons d'industrie capitaine qui sont partis de rien, sans études certaines, au terme d'échéances ont trouvé la faillite, dans la crise sans fin, cloués au déficit. Combien furent virés, écartés ou vendus, sous funeste OPA, leurs capitaux perdus. Comme veille Sainte-Anne sur les patrons bretons, en pleine mer d'Iroise contre les vagues grises, notre Saint-Médef veille sur les petits patrons, jusqu'à la Seine-et-Oise, au plein cœur de la crise. Là-bas, c'est le naufrage qui vous pousse à la grève. Mais ici, c'est la grève qui coule l'entreprise. Une banque qui tousse, c'est un salaire qui crève. Il n'y a bien qu'au pôle emploi qu'elles font pas la banquise. Un bon patron modèle, c'est un patron de couture qui sait mettre les formes, qui est taillé sur mesure. Le patron de bistrot, c'est un psy qui fait pchit. Un lacan de comptoir qui cirrose vos névroses et vous mène à l'hosto, où vous verrez très vite le patron mandarin, grand chaman en blouse rose. Faut que ça bosse. Faut que ça bosse. Sous la charge, l'ouvrier s'écroule. Sous les charges, les patrons y croulent. Le boulot, si t'en as, c'est cool. Faut que ça bosse, faut que ça bosse. L'esclave a un maître, l'employé un patron. Et l'un n'a d'être que par l'être du second, comme dirait Hegel, de façon dialectique. Faut fermer ta gueule, pour l'emploi, c'est tacotique. Le plein emploi, c'est chimérique. Le chômeur, il coule à pic. C'est le grand saut, y a pas d'élastique. Si pour faire un boyard, il faut 1000 moujiques. Pour faire 1000 tricards, un seul patron suffit. Marx est mort, tout est profit. Pour le boss, faut que ça bosse. Marx est mort, tout est profit, faut que ça bosse. Patron à la bougeotte, il faut qu'il délocalise. Toujours plus loin, des syndicales vocalisent. Seule l'embauche des hôtesses est son privé domaine. Mais question DRH ou ressources humaines, nul n'égalera la patronne de bordel. Maquerel sans doute. Mes vrais chefs du personnel. Le baron d'industrie, le maître des forges, dont les rouges meneurs voulaient couper les gorges, ont revêtu leur costard de PDG pour déplacer l'usine d'un air plus dégagé, dégraisser l'effectif, sans affectif énorme, et s'absoudre de ce péché du capital. On ne peut pas respecter tout à la fois les formes et le fonds de pension, actionnaire principal. La morale est chez La Fontaine. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fonds de pension qui banque le moins. Un simple préavis et l'on perd tous ses droits. Bienvenue, Paul, Émile et Victor au Pôle emploi. Cette leçon vaut bien un chômage, sans doute. Mais où sont les patrons d'antan? Où sont passés les gros cigares, les Rolls, les chauffeurs qui les garent, les gros gueuletons bien arrosés, bedaines prêtes à exploser? Les nouveaux boss font du jogging et du tai chi, c'est relaxing. Mais où sont les patrons d'antan? Le nouveau boss, c'est le marketing. Mais où sont les patrons d'antan?
Les papous dans la tête, vive la sociale. Il y a un fond de gravité, hein. Vous l'avez remarqué quand même. Au studio 105, en public, Pablo Gignoli, un petit peu de bandoneon. Lucas Fournier et Patrice Minet vont maintenant passer parmi vous, pas pour faire la quête, mais pour faire la pêche aux mots, parce que nous allons jouer avec Patrice Delbourg et Patrice Comon à 10 mots pour des histoires, et ce sont des histoires qu'ils vont écrire aux tables de travail derrière nous et devant vous et pendant le déroulement de la soirée, ce qui n'est pas facile. Donc, est-ce que vous avez des mots? Peut-être les avez-vous préparés à la maison. Alors, il faut des mots, 10, évidemment, contraignants parce que c'est plus de plaisir, la contrainte, mais aussi des mots qui déclenchent l'imaginaire de chacun, un nom propre, des noms communs, des verbes, enfin, un petit peu de tout, une variété. Alors, Patrice Minet, de votre côté, y a-t-il des mots? Tenez, il y a un monsieur au milieu.
Oui, j'ai
là.
Un monsieur qui a oui. Un mot. Vous êtes français?
Oui.
Téléphérique.
Téléphérique. Alors, Patrice Delbourg, Patrice Comon, vous avez le droit de refuser trois mots à condition d'être d'accord sur les refus. Téléphérique, vous prenez?
Bien sûr,
bon mot. Très bien.
Téléphérique.
Bravo,
magnifique.
Monsieur, merci.
C'est un peu grâce à moi,
monsieur, d'être venu pour ce mot-là.
Alors,
et donc une dame maintenant.
Oui, à gauche. Lucas.
Avec un mot féminin, sûrement.
Oui.
Conciliabule.
Ah.
Conciliabule. C'est long. Conciliabule, vous voulez?
Parfait.
Conciliabule, hein. Il y a un monsieur là au
oui,
deuxième
je vois,
rang.
Il y a un monsieur là. Vous avez, ah oui. Vous avez un mot, monsieur?
Oui.
Handicap.
Oh, ça, c'est...
Ça fout un peu l'ambiance par
terre.
On est
déjà dans Vive la sociale, hein. Ça va faire lourd. Je sais pas, handicap, vous voulez ou pas?
Bah, les Jeux sont finis.
Ah, oui, les Jeux Olympiques, c'est vrai. Qu'en pense Patrice Comon du handicap?
Oui.
Oui. D'accord, handicap. Vous avez le droit de refuser quand même. Hein.
Oui, mais non,
Lucas Fournier, chez
encore une jeune fille.
Débroussailleuse.
Pardon. Ah, c'est pas mal ça, débroussailleuse.
Débroussailleuse.
Ah,
voilà,
oui. Un joli mot.
Pour les sourcils.
Oui.
Bravo, mademoiselle.
Massacre la débroussailleuse. Oui.
Débroussailleuse. Alors, un nom propre, qui a un nom propre?
Est-ce
derrière
que vous avez
vous,
un nom
peut-être
propre, madame? Oui. J'ai une dame qui a un nom propre.
Oui.
Hippocrate.
Hippocrate. Ah. C'est pas mal ça,
parfait.
Hippocrate. Hippocrate plaît?
Ah oui, Hippocrate oui. Soigne.
Oui, le sarment d'Hippocrate.
Ils sont très bien, ils acceptent tout. Ce sont des hommes faciles, finalement.
C'est vrai.
Lucas Fournier.
Je pense qu'il y a un mot incontournable.
Oui.
Cucurbitacé, mais...
Oh. Ah, il revient souvent, non, celui-là.
Non. Avec le conciliabule.
Oh non, madame, vous venez à chaque fois proposer ce mot-là. Ça fait 7 émissions, déjà.
Alors, on refuse
si on a droit aux adjectifs. Biscornu.
Biscornu.
Ah, oui. Là, oui.
Biscornu.
C'est dommage qu'on n'ait pas eu cucurbitacé avec.
C'est vrai, ça allait bien. Alors, on est à 6 mots, déjà, hein. Attendez, monsieur au deuxième rang, il lève le doigt depuis le début, Patrice Minet.
Monsieur, vous avez un doigt?
Ah, vous avez un bon mot, j'espère. Hein.
Catacombe.
Catacombe. Ah,
c'est parfait, merci monsieur.
Vous prenez?
Oui.
Ce sont des mots durs, hein, quand même. Alors un verbe, oui, une dame a dit un verbe.
Vous avez un verbe?
Ah, il y a une dame au premier rang, Lucas, qui a un verbe. Ah,
bah, alors attendez, on va aller au premier rang, madame.
Oui. Ce sont les trois derniers mots. Hein.
Volatiliser.
Relativiser.
Volatiliser.
Ah, volatiliser. C'est mieux.
Oui,
volatiliser.
C'est mieux.
Est-ce qu'ils ont le droit de le conjuguer ou pas?
Ah ben oui. Ah ben
oui,
ben
hein.
Ben oui.
D'accord.
C'est un verbe du premier groupe.
Ça veut dire quoi?
Alors, ce sont les deux derniers mots. Ne nous trompons pas. Un personnage encore. Peut-être une femme. C'est une liste très masculine, je trouve.
Bon, alors, vous avez une femme. Vous avez une femme. Marguerite Duras, en un mot.
Et voilà. C'est ce qu'on pouvait redouter.
Et voilà.
Non.
Et voilà.
Alors,
et
c'est
voilà
votre deuxième refus. Vous non, voulez Duras?
Oui, on la garde.
Alors, on garde Duras.
Bien sûr.
Bon. Vous en voulez une autre?
Dernier mot côté Lucas.
Non.
Tout en haut, vous avez un doigt.
Olympe.
Ah.
Comme voilà. De Gouges.
Olympe, non, moi.
Bon,
non.
Alors pas d'Olympe.
Non, parce que pour moi, c'est le nom d'un restaurant. Voilà.
Marie Curie.
Marie Curie.
Oui, oui. Salutante.
Oui. Allons-y.
Non. Ah non.
Non, pas. Non, allez, non, bon, non. Bah, dernier refus.
Non,
alors,
non.
Le dernier mot sera...
Ah non, pas de nom propre.
Qui a un dernier mot, un joli mot, un mot goûteux, un mot charmant? La dame devant.
Libellule.
Libellule.
Oui, ben voilà.
Ah, un peu de plein air.
Enfin un mot
qui nous élève un peu.
Ah, voilà. Très bien.
Libellule. Alors, je récapitule.
Oh, peut-être mieux pas, non?
Téléphérique, conciliabule, handicap, débroussailleuse, Hippocrate, biscornue, catacombe, volatilisée, Marguerite Duras et libellule. Eh bien, avec ça... Ah non, ne partez pas tout de suite, Patrice, comment ce serait trop facile. Moi, j'ai préparé des styles. Vous avez une contrainte supplémentaire. J'ai des styles dans un chapeau, il n'y en a pas énormément. Vous avez le droit de refus. Allez, on va passer à Patrice Delbourg.
Commencez, Patrice, vous avez mon galurin.
Un premier style, Patrice.
Marguerite Duras.
C'est vrai?
Ah, c'est magnifique.
Non, c'est pas vrai,
trop facile,
c'est n'importe quoi.
C'est discours.
Ah.
Oui, ben je prends.
Vous prenez discours oui. Comme ça, du premier coup.
Ben après, c'est pas ce qu'il y a. Oui.
C'est vrai, c'est vrai. Alors vous passez le chapeau à Patrice Delbourg qui remue. Au fond, vous l'avez...
Annales du Bac.
Annales du Bac.
C'est une contrepétrie.
Plus connue sous les bacchanales. Non. Jeu télévisé, ah ben voilà. Oui, oui, jeu télévisé, je garde cela.
D'accord, vous pouvez garder le chapeau, c'est le vôtre.
Absolument.
Très bien, vous allez vous installer au table. Derrière, vous écrivez. Voilà, et nous, pendant ce temps, on va continuer. Vous allez jouer à expert contre faussaire. Alors, il y a deux experts, Patrice Minet, Hervé Le Tellier. Vous les avez sûrement déjà entendus dans ces rôles à l'antenne. Ils sont parfois brillants, parfois pas trop, mais ils sont amusants quand même. Puis ils sont sympathiques. C'est un peu le critère du casting. Et puis, nous avons trois faussaires, Patrick Beignet, Lucas Fournier et Jeanne Carillon. Et je précise que Jeanne, c'est la première fois qu'elle joue à ce jeu d'expert faussaire. Alors, comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas le jeu? Eva Almassier est la maîtresse du jeu. Elle a choisi une certaine œuvre et elle va nous la résumer, nous la raconter un petit peu, puis situer le début, non pas de l'œuvre, mais le début d'un chapitre qu'elle a élu et la fin de ce chapitre. Et comment avons-nous procédé pour l'écriture? C'est très simple. Nous sommes réunis, les faussaires, Eva et moi. Ils ont écrit les textes, je les ai pris, je les ai gardés, ils sont là. Et maintenant, vous allez tout découvrir, tout comme les experts qui ne sont au courant de rien. Eva Almassie, alors, ce choix?
Bah alors moi, on me dit social, moi je choisis du Zola.
Bah, c'est pas bête, hein? Non?
Enfin, premier réflexe, moi je le garde. Et pourquoi? Parce que Zola est toujours actuel. Alors certains diraient, hélas, parce que côté justement social, rien n'a changé depuis, hein, ça va pas mieux.
Il y a eu Marguerite Duras depuis.
et puis, alors il y a aussi une actualité commémorative, car pas plus tard qu'hier, le 29 septembre, j'ai allumé une bougie pour l'anniversaire de sa mort. Voici 114 ans pile que Émile Zola nous manque.
Mais c'est vrai, ça.
Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça.
Oui. Et alors, donc vous avez choisi quel roman?
J'avais le choix, j'ai choisi Au bonheur des dames.
Magnifique roman.
Voilà, et en plus tous les adolescents que vous êtes, vous connaissez parce que ce roman était au programme du 3e l'an dernier.
Absolument. Et c'était il y a 3 jours pour vous, non?
Pour être plus sûr, je résume en 2 mots.
Oui.
Alors, ces 2 mots, alors, il y a un côté collection Harlequin, version naturaliste, bien sûr, Zola oblige. C'est une histoire d'amour plus ou moins crédible entre Octave Mouret, le directeur du grand magasin en question, et Denise Baudu, son employée la plus modeste.
Voilà.
Et puis alors, on a un côté capital de Karl Marx. Zola nous décrit tout par le menu de ce phénomène où les grands poissons avalent les petits poissons et où le grand magasin tue tout commerce de proximité autour de lui.
Ce qui est le cas de nos jours.
On est en 1865 dans le roman. Et Zola, pour mieux représenter la chose, dresse un comptoir entre les bourgeoises aisées qui vont dépenser tous leurs sous là-bas et les pauvres vendeuses dont la plus pauvre et la plus malheureuse est cette Denise.
Mais très jolie.
Même pas. non, il faut l'imaginer comme une Brigitte Fossé pas jolie. C'est difficile, mais avec des très, très, très grands cheveux blonds et des jolis yeux gris. Voilà, c'est tout. Voilà. Et alors, le patron...
Zola avait pensé à Brigitte Fossé en écrivant, c'est sûr.
Ah ben, c'est sûr. Donc, c'est une petite orpheline montée de Valognes à Paris avec ses 2 jeunes frères pour demander de l'aide à son oncle. Et le grand patron Mouret, qu'est-ce qu'il va faire? Il va justement... tuer la boutique.
Aïe, aïe, aïe.
Ah là 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 là. Mais alors, il y a tout ce qu'il invente. Il invente la publicité, les soldes, les rabais, les promotions et la recapitalisation rapide des bénéfices colossaux pour s'agrandir encore. Donc, pour ce qui est de susciter la fièvre acheteuse et me rendre chopalcoolique, comme on dit, le roman aurait dû s'appeler « La faute d'Octave Mouret ». Mais ça a été déjà pris.
Mais oui.
Alors voilà. Le chapitre 6 qui vous intéresse,
oui,
se situe à peu près au milieu du roman. Alors là, notez les experts.
Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire.
La pauvre Denise est en mauvaise posture. Bourdoncle, le bras droit d'Octave Mouret, la licencie parce qu'elle a bavardé avec sa copine Pauline. On licencie d'ailleurs un tiers du personnel parce qu'il y a moins de clientes en été. Donc, tout le monde
a peur.
Une personne oui. sur trois entend cette phrase terrible, mademoiselle ou monsieur, passez à la caisse. D'accord ? Et donc,
Minée a l'air passionnée.
Alors, ça va mieux vous plaire. Dans ce même chapitre, on va aussi au restaurant de l'entreprise où tous les employés prennent du bœuf sauce piquante. Là, ça vous intéresse.
Bien sûr.
Pour éviter le poisson parce qu'il sent pas bon.
Oh.
Voilà, on est en plein dans le social. Tout le monde râle contre le patron Octave Mouret. Du coup, il est pas content non plus. Atmosphère du début.
Voilà, les quelques lignes qu'il devait écrire.
Les quelques lignes qu'on va entendre dans voilà. les diverses versions. L'été approchant, tout le monde devient pessimiste au bonheur des dames, du patron aux employés. Ça va barder pour une raison précise. Attention, ce constat est écrit au passé comme tout le reste du roman. Et la fin. Octave Mouret réagit au propos de Bourdoncle, son second, qui s'est permis de congédier Denise. Mais très vite, son insatiable appétit commercial reprend le dessus et l'aide à se consoler. Voilà.
Voilà, c'est un très bon résumé de l'œuvre. Ça a rafraîchi la mémoire de tout le monde. Oui, on y est. Est-ce que je vous demanderai votre avis, naturellement? Alors voilà les textes.
C'est bien. Hein.
Je les mélange et chacun va en tirer un pour lecture. Allez-y, Patrick Beignet, Jeanne Carillon, Lucas Fournier et Jean Gardin. Voilà. Alors maintenant, je n'ai pas précisé, mais cela va sans dire, que nos experts doivent avoir des arguments littéraires, ce qui n'est pas toujours le cas.
Non.
Mais aujourd'hui, j'aimerais bien
pas toujours.
Quand même. Allez, un premier lecteur, Patrick Beignet.
Au bonheur des dames, la saison estivale approchait, larguant avec elle tous les maux. La chaleur accablante du magasin, dont les allées étroites et fournies étaient désormais presque vides, les inactions engourdies des employés du velours et la peur au ventre du licenciement. Oui, l'été, c'était ça, la solitude crasse et la misère moite. Et la fin du chapitre.
Oui.
Ah ça, par exemple, Bourdoncle, pourquoi avez-vous licencié mademoiselle Baudu, dit Mouret, fiévreusement, avec la clairvoyance des fous qui pensent tout haut. Puis, se reprenant aussitôt, vous avez raison, il faut se concentrer sur les nouveaux rayons. Du ménage, la clientèle change, c'est une chance.
Bon, c'est un beau texte, je trouve qu'on peut l'applaudir. Quel qu'en soit l'auteur, qu'en pensez-vous, Hervé Lutelli, une première impression?
La première impression,
oui.
C'est que la personne a très bien obéi aux consignes.
Hein, ouais.
Donc,
bon élève.
Bon élève, voilà. Ouais. Bon élève, on pourrait même jusqu'à penser que c'est la première fois qu'elle se livre à cet exercice. Parce que ceux qui l'ont fait plusieurs fois sont en général un peu plus éloignés de la chose. Voilà. Il y a des petites naïvetés, bienvenue, hein, solitude crasse. Ça, c'est un peu moderne à mon goût.
Ouais, c'est joli.
C'est très joli. C'est, ouais. Je pense que le concept de solitude crasse est un peu postérieur aux années de fin du 19e siècle. Mais bon, c'est très, peur au ventre me semble être un peu un cliché. Mais après, tous les clichés... parfois sont des fortunes à une certaine époque. Donc peut-être que c'est... Voilà. Et le « ah ça » du début de la fin me paraît bien suranné, ma foi. Donc pour l'instant, je pense pas que ça soit Zola.
D'accord.
Mais je garde encore un peu mon...
Oui, oui, vous aurez un deuxième tour.
J'espère bien, oui.
Patrice Minet, votre avis?
Le style n'est pas là.
Le style n'est pas là. Le style de Zola, vous voulez
dire. De Zola. Mais il avait peut-être un petit moment de faiblesse à la fin. Et au début, parce qu'il ne savait pas très bien où il allait.
Ben, c'est un chapitre du milieu. Hein.
Voilà, c'est un chapitre du milieu qu'il a commencé à écrire trop tard. Et nous pouvons constater qu'il y a une phrase dans le début très longue.
Oui.
Très, très longue.
Ah oui, et alors ?
Eh bien, Zola était déjà d'un âge avancé et il ne se serait pas aventuré à écrire une phrase aussi longue. Ou alors il aurait été obligé de se relire.
Non.
Et alors, à la fin, nous avons une petite... comment dire ? Il y a un côté un peu mallarméen.
Ah oui ?
Oui, du ménage.
Ouais.
Et l'azur, voilà. Voilà, alors ça, c'est assez moderne.
Mm-hmm.
Pour Zola.
D'accord, donc vous éliminez Zola a priori ?
Non, pas du tout. Non.
Ok.
Je suis circonspect.
D'accord, on vous retrouve au deuxième tour. Alors, deuxième lectrice, c'est Jeanne Carillon qui va défendre le texte qu'elle a en main.
Juin arriva et avec lui l'inquiétude. C'est qu'on n'aimait pas l'été au magasin. Qu'il pleuve et les dentelles fraîches, les chapeaux de saison, les rouleaux d'organdi et d'ottoman resteraient sur le comptoir. Que le soleil soit ardent et les rayons demeureraient tristement déserts. Sans clients, pas d'affaires, disait Mouret. Sans clients, pas de travail, songeaient les filles.
La fin.
Alors celle-là, elle n'est pas piquée des hannetons. Vous avez chassé Denise comme ça, tout uniment, sans batterie. C'est du toupet, Bourdoncle. Et pour la rentrée ? Sa colère sembla tomber soudain, il reprit. Pour la rentrée, vous en trouverez une autre et vous lui donnerez 3 sous de moins.
C'est pas mal, hein ? Non, tout le monde est mieux. Ébloui, non, vous êtes ? Hein, c'est pas mal. Alors, Hervé n'a pas l'air ébloui, je ne sais pas, mais...
Non, moi, je trouve que c'est bien qu'on arrive à replacer les rouleaux d'organdi et d'ottoman. Là aussi, non seulement il y a un côté bon élève, ça c'est bien, mais alors il y a aussi un côté pédagogue. C'est-à-dire, vous ne connaissez peut-être pas bien tous les tissus, alors je ne vous mets pas l'astrakhan, parce que c'est quand même trop, puis c'est l'été quand même. Mais bon, l'organdi, l'ottoman, c'est quand même pas mal de le mettre. Donc je pense que je vais imaginer que quelqu'un de très pédagogue et de très didactique, et je vais voir ensuite ce que ça peut bien être. Quand t'as pas piqué des hannetons, je le sens pas tellement dans Zola. Alors c'est bizarre, c'est peut-être une énorme erreur, hein. Mais alors rien comme ça, je le sens pas, mais pas du tout, du tout. Bon,
on verra tout à l'heure. Piquer des hannetons, ça vous inspire quoi, Patrice Minet ?
Moi je vous dis, pourquoi pas Zola, il voulait piquer des hannetons, il en a fait ce qu'il voulait. Ce qui est curieux, c'est quand même qu'on fasse le tour du magasin dans le début. Sixième chapitre, on connaît déjà...
L'organdi, là,
tout le monde. Oui, tous les étages avec toutes les marchandises. Alors, c'est un peu tard pour décrire ça. Mais en même temps, c'est assez logique. Il y a une phrase un petit peu de La Fontaine, sans client, pas d'affaires, pas de travail.
Ouais.
Voilà, c'est bon.
C'est bien, ça. C'est vrai, en plus.
C'est un peu piqué à La Fontaine, peut-être, je sais pas. C'est bien, c'est littéraire.
Donc c'est quelqu'un de cultivé qui a écrit ça.
En même temps, sans client, pas d'affaires, dans le genre... un peu banal, si vous voulez, accuser qui que ce soit. C'est quand même sans client, pas d'affaires, vous voyez, c'est... Voilà. Sans route, pas de voiture, sans estomac, pas de repas. Enfin, vous voyez, il y a un côté quand même un peu naïf dans cette affaire. Hein.
Sans papier, pas de livre.
Voilà, on voit assez mal ça comme une sorte de vérité profonde du commerce.
Hein.
C'est un peu lourd, quand même.
À côté de ça, la fin...
Oui.
Se tient. Elle se tient, je ne sais pas à quoi, mais elle se tient à quelque chose. Et vous lui donnerez 3 sous de moins. Mm. Voilà. Ça aurait été Balzac. 3 sous de moins, 3 sous de plus. Oui. Chez Zola, 3 sous de moins. Je ne sais pas où le cours du sou à l'époque. Voilà, ça fait curieux. Mais c'est pas mal. C'est une belle invention.
D'accord.
De la part du faussaire.
D'accord.
Voilà.
Bah, c'est bien. Le faussaire en question prend les compliments. Lucas Fournier, troisième lecture.
Quand la morte saison d'été fut venue, un vent de panique souffla au bonheur des dames. C'était le coup de terreur des congés, des renvois en masse, dont la direction balaya le magasin, vide de clientes pendant les chaleurs de juillet-août.
La fin.
Mouret resta gêné, le sang au visage. « Ma foi, répondit-il en riant, vous avez peut-être raison. Descendons voir la vente. Ça remonte. On a fait près de 100 000 francs hier. »
Pas mal, hein ? Non ? Vous l'aimez ce texte ou pas ? Ouais. Pas mauvais. Puis il l'a très bien lu, il faut dire.
Oui.
Comme il l'a très bien défendu.
Bien défendu.
Alors, votre impression, Hervé Le Tellier ?
Les chaleurs de juillet-août, c'est ça ?
Oui.
Je ne sais pas, ça me paraît un peu parlé, hein, pas très écrit. Mais je veux bien croire à une dimension. Puis le début, magnifique, hein. La bise fut venue, côté cigale, fourmi. Enfin, c'est quelqu'un qui connaît la fontaine déjà. Donc là, c'est bien. Hein. Pas le moindre morceau d'Astrakhan ou d'Orglandi. Hein. Hein. Bon, elle a crié famine chez Mouret, sa voisine. C'est très bien. Non, j'y crois pas une seconde.
Bon, c'est pas du Zola, c'est
non,
ça.
Non, c'est pas Zola. Mais j'aime bien. Descendons voir la vente, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Descendons voir la vente, ça j'aime bien.
Ouais. C'est un homme d'affaires.
Que ça ne remplit pas toutes les consignes qui ont été données pour la fin par Eva Almassi. Hein. Je trouve que la réaction au propos de Bourdoncle sont un peu limites. Mais bon, voilà, on va.
On verra au deuxième tour. Patrice Minet.
Pour l'instant,
j'ai pas encore entendu
Zola, ce qui
m'ennuie. Non, c'est un petit peu embêtant.
Statistiquement, j'ai une chance sur quatre de l'avoir déjà entendu. Ouais, ouais. Ça m'embête.
Patrice Minet.
Alors, il faut savoir où c'est des francs ou c'est des sous. Alors, peut-être que ni les sous ni les francs sont chez Zola. Qu'est-ce que c'est alors, des écus? Bon, c'est vrai que le début de La Fontaine est excellent. Mouret resta gêné, le sang au visage.
Le
sang au visage, vous trouvez ça bien?
Ça me déplaît pas.
C'est formidable.
Ça me dérange
pas. Je trouve ça formidable et gonflé. Gonflé surtout. Voilà, je ne l'aurais pas écrit. Pourtant, je suis gonflé aussi.
Donc, c'est pas du Zola?
Ah, je n'ai pas dit ça.
Alors, moi, je vous lis un quatrième texte. Maintenant, l'été approchait. Et les beaux quartiers se vidaient lentement. Les riches clientes partaient en villégiature vers Deauville ou Biarritz. Il commençait à faire très chaud. Un après-midi, Mouret fit appeler Bourdoncle d'un ton solennel. En l'entendant, les employés se regardèrent inquiets. Les plus anciens savaient ce que cela signifiait. La fin ? L'idée prenait corps dans l'esprit d'Octave Mouret. Oui, c'est une idée, cela. Un rayon spécial pour la rentrée des classes. Les mères de famille trouveraient le matériel rassemblé au même endroit. Cartables, plumiers, buvards, cahiers. Et elles achèteraient plus facilement. Déjà, l'image de Denise avait commencé de s'effacer.
L'image de
Denise.
De Denise. Denise. Denise Baudu.
Oui, Denise Baudu. C'est très simple comme écriture.
Oui.
C'est le genre d'écriture qu'on a quand on sait qu'on va se faire quand même les Rougon-Macquart. Les Rougeons-Macquart, comme dirait un ex-président. Et donc, c'était facile. Je regrette, j'ai déjà honte. Donc, quand on sait qu'on va se faire à peu près 8000 pages, on peut avoir cette simplicité-là.
Oui.
Et donc, ça ne me choquerait pas que ça soit dans un roman de longue haleine. Il y a beaucoup de place pour s'installer. On n'est pas nécessairement dans autre chose que de la simplicité, d'autant plus que chez Zola, ce n'est pas cette question qui est essentielle, c'est la question du réalisme, et donc pourquoi pas. Pourquoi pas Zola ? La rentrée des classes m'étonne un petit peu, mais si quelqu'un a écrit ça parmi les faussaires, c'est un original, et ça mérite d'être donc récompensé par le brevet Zola.
Oui.
Voilà.
Alors, Patrice Minet ?
Eh bien, je suis désolé, parce que je suis quand même un petit peu d'accord avec Hervé.
Mmh. On se trompe souvent ensemble, hein, on adore ça.
Vous tomberez ensemble.
Il y a des locutions, il y a des mots. Il y a les beaux quartiers, le ton solennel, les plus anciens savaient. Ça, c'est malin. Mmh. Je veux dire, c'est un petit peu dans ce style d'écriture. C'est simple, mais ce n'est pas si simple. C'est très évocateur. Et puis, l'idée prenait corps. Vous voyez, c'est un petit peu désuet, un petit peu suranné. Mmh. Et on peut imaginer ça chez Zola. L'image de Denise commençait à s'effacer. Ça exprime l'idée que nous avait décrite Eva. Et c'est assez élégant.
Très bien. Alors, vous avez une deuxième chance, une première même, parce que vous êtes assez peu exprimé sur les noms. Et puis, on vous demandera votre avis. Relecture, Patrick Beignet.
Au bonheur des dames, la saison estivale approchait, larguant avec elle tous les mots. La chaleur accablante du magasin, dont les allées étroites et fournies étaient désormais presque vides, les inactions engourdies des employés du velours et la peur au ventre du licenciement. Oui, l'été, c'était ça, la solitude crasse et la misère moite.
Voilà, la fameuse solitude crasse qui vous plaisait tant, Hervé Le Tellier.
Ah, ça me plaisait moyennement, mais, mais ça m'évoquait des choses, oui.
La faim.
La faim. Ah ça, ah, par exemple, Bourdoncle, pourquoi avez-vous licencié Mademoiselle Baudu, dit Mouret fiévreusement, avec la clairvoyance des fous qui pensent tout haut. Puis, se reprenant aussitôt, vous avez raison, il faut se concentrer sur les nouveaux rayons. Du ménage, du ménage. La clientèle change, c'est une chance. Maintenant, j'entends mal armé. À cause de...
ouais. Alors, un nom maintenant, Hervé Le Tellier.
Ah, ça, bah, je pense que c'est Hergé. Hein. Ah, ça, par exemple, le Bourdon. c'est Dupont et Dupont. Hein.
Voilà. Mais il n'est pas là.
Alors, il n'est pas là, c'est ça le problème. Donc, en absence d'Hergé, je vais prendre Jeanne Carillon.
Jeanne, le côté bon élève dont vous parlez.
C'est très bien. Hein, bon, c'est clairvoyance des fous, c'est assez beau hein, tout ça, mais j'habite du ménage. Non, c'est amusant.
Ah, un très bon Jeanne Carillon, ouais, Patrice ouais. Minet.
Je ne vais pas prendre Jeanne, je vais prendre Patrick Beignet.
Au hasard ou avec
pas du tout au hasard, je trouve qu'il l'a très bien lu.
On lit bien ce qu'on a écrit, c'est ça.
Oui, enfin, il n'a pas trébuché sur les mots, il avait l'air de comprendre ce qu'il disait, c'est pas mal.
Alors, pour qui est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Qui est d'accord avec Hervé Le Tellier sur Jeanne Carillon? Vous criez très fort, oui.
Oui.
Oh, enfin, c'est pas ceux, hein. C'est pas si mal. Qui est d'accord avec Patrice Minet sur Patrick Beignet?
Oui.
Ah, le monsieur a une très très bonne voix, mais il est quasiment seul.
Ça ne suffit pas.
Je vous remercie quand même.
Qui n'a pas d'opinion?
Ah, c'est bien tout le monde, c'est normal.
Non, mais qui pense que c'est du Zola?
Non.
Ou du Fournier?
Oui.
C'est très partagé, il y en a beaucoup qui ne se prononcent pas. Ils attendent la deuxième lecture.
Ils ont raison.
Jeanne Carillon.
Juin arriva et avec lui l'inquiétude. C'est qu'on n'aimait pas l'été au magasin. Qu'il pleuve, et les dentelles fraîches, les chapeaux de saison, les rouleaux d'organdi et d'ottoman resteraient sur le comptoir. Que le soleil soit ardent, et les rayons demeureraient tristement déserts. Sans clients, pas d'affaires, disait Mouret. Sans clients, pas de travail, songeaient les filles.
La fin.
Alors celle-là, elle n'est pas piquée des hannetons. Vous avez chassé Denis comme ça, toute une immense sans batterie. C'est du toupet, Bourdoncle. Et pour la rentrée... Sa colère sembla tomber soudain. Il reprit. Pour la rentrée, vous en trouverez une autre et vous lui donnerez 3 sous de moins.
Qui a pensé à cette mesquinerie, Hervé Le Tellier?
C'est du toupet, Bourdoncle. Qui ouais. M'étonne encore, que je n'avais pas remarqué tout à l'heure. Alors, combien vaut un sou?
Et combien en valent 3?
Eh bien, c'est ça. Non, moi, j'associerais ça assez volontiers à... Lucas. Je dis Lucas, voilà.
C'est le côté sans clients, pédagogue.
Oui, ce côté sans clients, pas d'affaires, sans clients, pas de travail, sans dimension sociale, oui. Qui s'exprime rarement,
rarement,
et qui d'un seul coup, là, éclate au grand jour devant un public ravi, je pense, de savoir que c'est au fond de... Hein?
Moi, ça me paraît bien. Lucas Fournier,
Voilà.
Vous êtes d'accord avec lui? Il y en a qui sont d'accord?
Oui.
Un petit peu? Non. Patrice Minet, pour vous?
Pour moi, ça serait plutôt Jeanne.
À cause de?
Ben, parce qu'on sent bien quelqu'un qui a l'habitude d'aller dans les magasins.
Qu'est-ce que c'est?
Ça alors?
C'est quoi ce truc?
Jeanne, elle sait de quoi elle parle, les rubans d'organdi. Voilà. Elle a l'air de se connaître.
Oui, il est macho, hein, ouais, vous avez raison. Hein.
On sait aussi que Zola faisait de longues recherches avant d'écrire ses livres.
Ouais. D'ailleurs, le résultat de ses recherches, c'est « Sans client, pas d'affaires, sans client, pas de travail ». Ça, il y a du boulot derrière.
Voilà.
On peut piquer des hannetons aussi. C'est...
Ouais, c'est joli. Dans la salle, vous pensez que c'est du Zola?
Non.
Du Carillon?
Oui.
Il y a quand même un Zola, il me semble, non?
Oui, c'est moi.
Deux. Oui, c'est vous.
Ah, c'est vous. Ah, c'est Zola.
Bien. Allez, troisième lecture par Lucas Fournier.
Quand la morte saison d'été fut venue, un vent de panique souffla au bonheur des dames. C'était le coup de terreur des congés, des renvois en masse dont la direction balaya le magasin, vide de clientes pendant les chaleurs de juillet-août. La fin. Mouret resta gêné, le sang au visage. « Ma foi, répondit-il en riant, vous avez peut-être raison. Descendons voir la vente. Ça remonte. On a fait près de 100 000 francs hier. »
C'est drôle, il y a descendre et remonter.
Eh oui.
Hein, c'est amusant, ça.
C'est... Ah, merci d'avoir remarqué, on voit. Il y en a une qui suit.
C'est alors, beaucoup, Hervé Letellier.
C'est beaucoup 100 000 francs, hein, à l'époque.
Ah, vous êtes sorti des sous, là.
Non, mais là, c'est une réflexion qui est d'ordre. C'est beaucoup 100 000 francs le, mm-hmm. dans les années 60.
Donc, c'est une belle vente.
Oui, c'est une très belle vente. Ouais.
Mm-hmm. Ouais, ça vous mène à qui? Pardon d'être ah, ça un peu direct.
C'est pas le jeu des 1000 francs, là.
Non, non.
C'est possible. Ouais. C'est possible dans
un grand
magasin.
Il y a peut-être une dévaluation juste après. Voilà.
Dans un grand magasin, c'est possible. Ouais.
Et donc
oh, moi, je vais quand même rester. Je n'aurais pas attribué ça à Zola. J'ai une hésitation. Donc, je vais l'attribuer à Patrick.
À Patrick Beignet.
Patrick Beignet, oui.
À cause du côté La Fontaine que vous aviez souligné tout à l'heure.
Je pense qu'il se moque de nous, donc je ne vois que ça. Je vois pas comme. Et alors, franchement, juillet-août me paraît impossible. Mais en même temps, de la part de Patrick, qui est un fin connaisseur du 19e, je sens la perversité totale. Donc je me méfie. Voilà.
Mais vous dites un Patrick, un
Patrick, oui.
Patrice Minet.
Je vais dire Lucas Fournier. Je n'ai pas vraiment d'argument en dehors du fait que j'ai déjà cité les deux autres. Et c'est que il y a quand même une blague quand la morte saison de l'été fut venue. C'est pas possible de ne pas avoir pensé que ça allait être lu en public. Et que ça, bien sûr que ça résonne. Voilà, et donc je vois très bien Lucas se dire, eh bien, je vais faire rire avec ça. Et d'ailleurs, il a réussi, tu vois.
Ben, il adore faire rire, Lucas. Hein.
Oui, très bien.
Vous pensez que c'est Lucas?
Oui.
Ah, une bonne cote, Lucas. Hein. Ouais. Bon, alors moi, je vous lis le dernier. Maintenant, l'été approchait et les beaux quartiers se vidaient lentement. Les riches clientes partaient en villégiature vers Deauville ou Biarritz. Il commençait à faire très chaud. Un après-midi, Mouret fit appeler Bourdoncle d'un ton solennel. En l'entendant, les employés se regardèrent inquiets. Les plus anciens savaient ce que cela signifiait.
Très bien.
Enfin, l'idée prenait corps dans l'esprit d'Octave Mouret. Oui, c'est une idée, cela. Un rayon spécial pour la rentrée des classes. Les mères de famille trouveraient le matériel rassemblé au même endroit. Cartables, plumiers, buvards, cahiers, et elles achèteraient plus facilement. Déjà, l'image de Denise avait commencé de s'effacer. Alors, ben, ça fait rire les cartables. Oui, hein, il n'y a que les enfants que ça ne fait pas rigoler.
Je peux changer d'avis. Hein,
ah non.
Ah si, parce que,
c'est trop compliqué.
Non, mais je viens de voir qu'il y avait deux fois idée, que c'était l'idée prenait corps, c'est une idée, tout ça me paraît beaucoup. La rentrée des classes, ça me paraît énorme. Ça ne peut pas être cela.
Bah, écoutez, c'est celui qui vous reste et à ce jour, ben,
je
ne change pas
bien,
d'avis.
Je sais bien, mais bon.
On ne peut pas changer, là.
Non, autrement on ne peut plus suivre.
Ou alors il faut le ticket de caisse pour changer.
Bon, allez, restons.
Alors, Zola, hein, et pour Patrice Minet.
Ben moi, je vais donc tout changer.
Non, je suis navrée parce qu'il vous reste Zola.
Ah oui, il me reste Zola aussi.
Ouais.
C'est désolant, il me reste Zola.
Mais comment ça, c'est un très joli texte.
Mais oui, c'est très joli,
c'est
oui.
C'est pas mal, c'est
hein?
pas mal.
C'est très joli.
C'est la rentrée des classes.
Alors, voilà. Zola.
Le début ne me dérange pas, c'est la fin qui me perturbe un petit peu. Allons-y.
Alors, nous avons deux Zola à la table. Est-ce que certains d'entre vous misent sur Zola pour le texte que je viens de lire? Non? Même pas un? Oui, bah quand même. Oh, moins 5, 6, 7, 8, 9. Bravo.
On aura un coup à la fin.
Alors, qui a en main le texte de Zola? On va en relire un petit bout, le début, par exemple.
Quand la morte saison d'été fut venue, un vent de panique souffla au bonheur des lames.
C'était le coup de terreur des congés, des renvois en masse, dont la direction balaya le magasin vide de clients pendant les chaleurs de...
Juillet-août.
Bon, bah voilà. Écoutez, alors, c'est un premier zéro.
Oui, enfin, hein. Moi, j'aurais changé. Hein. On m'a pas laissé faire, mais bon... Je m'accorde un demi-point, moi, personnellement.
Ce texte ayant été attribué à Patrick Beignet et à Lucas Fournier, bah, tous les deux, vous avez été pris pour Zola, ce qui est très flatteur. Navré, un premier zéro.
Premier zéro, mais moi, je voulais changer aussi. Hein.
Allez, on relit les textes dans l'ordre. Un petit bout, Patrick, le début, par exemple.
Au bonheur des dames, la saison estivale approchait, larguant avec elle tous les maux. La chaleur accablante du magasin, dont les allées étroites et fournies, étaient désormais presque vides. Les inactions engourdies des employés du velours et la peur au ventre du licenciement. Oui, l'été, c'était ça, la solitude crasse et la misère moite.
Et alors, c'est signé de qui, Patrick ?
Jeanne.
Oui. Ah, voilà, bravo à tous ceux qui l'ont dit. Là.
Du ménage.
Du ménage. Après, Jeanne Carillon. Le début ou la fin, le meilleur pour vous.
Alors celle-là, elle n'est pas piquée des hannetons. Vous avez chassé Denise comme ça, tout uniment, sans batterie. C'est du toupet, Bourdoncle. Et pour la rentrée, sa colère sembla tomber soudain. Il reprit. Pour la rentrée, vous en trouverez une autre. Et vous lui donnerez 3 sous de moins.
Et c'est signé
Lucas Fournier.
Ah. Et un deuxième point pour Hervé Le Tellier. Wow. Toujours zéro pour Patrice Minet.
Mais statistiquement, c'est plus possible que je marque un seul point.
Je suis d'accord. Alors, on a eu Zola. Et donc, moi, bah, je vais vous relire la fin qui est celle qui vous a fait le plus rigoler. Hein. L'idée prenait corps dans l'esprit d'Octave Mouret. Oui, c'est une idée, cela. Un rayon spécial pour la rentrée des classes. Les mères de famille trouveraient le matériel rassemblé au même endroit. Cartables, plumiers, buvards, cahiers, et elles achèteraient plus facilement. Déjà, l'image de Denise avait commencé de s'effacer. Bien, c'est de l'excellent Patrick Beignet. Patrick Beignet a donc été pris 2 fois pour Zola. Qui est très très bien. Vous avez un petit mot de commentaire très
juste
rapide.
Un mot de commentaire à l'intention de mon voisin Patrice Minet, parce que au 6e chapitre, d'après vous, Zola ne s'amuserait plus à décrire les autres. Il le fait tout le temps. Dans chaque chapitre, dans chaque paragraphe, il y a une magnifique description des dentelles, des soieries, des velours. Vraiment, il prend son pied avec.
Il fallait le dire avant.
Il décrit aussi bien que Théophile Gautier.
Allez, on va récupérer Patrice Delbourg et Patrice Caumont avec leurs histoires. 1 minute, le temps d'écouter Pablo Gignoli au bandoneon, la télécite. Donc on jouait tous ensemble à Expert Faussaire. Vous les avez sûrement regardés un petit peu travailler, non ? Patrice Delbourg, Patrice Caumont, ils étaient mignons, concentrés, ils ont écrit leurs histoires dans les styles imposés. Donc jeu télévisé pour Patrice Delbourg, c'était ça, et oui. Discours pour Patrice Caumont. Alors je vais rappeler les mots que vous leur aviez imposés, des bien jolis mots, ma foi, mais pas facile. Téléphérique, conciliabule, handicap. Débroussailleuse, Hippocrate, biscornue, catacombe, volatilisée, Marguerite Duras, et libellule. Alors on commence par qui ? Qui veut se lancer ? Et vous soulignerez à chaque fois les mots à leur passage par ce bruit de grenouille métallique. Patrice Del, vous rattrapez la grenouille. Alors vous aviez je télévisé.
Lucien Jeunesse rabattit sa moumoute sur son front bosselé d'amateur d'opéra. Il régla son pacemaker au rythme du xylophone de Monsieur Lependu, son fidèle compagnon de tournée. Le téléphérique de Briançon lui avait fait monter la tension en looping. Quelle idée la direction de France Arter a-t-elle eue d'enregistrer l'émission du jeu des 1000 balles dans la bourgade la plus haute d'Europe ? Et en plus, cette fois-ci, l'émission est télévisée. Le moindre handicap se remarque illico. Une morvelle sous la narine, une onglée au bout des segments, un défaut d'élocution du haut givre, la braguette malencontreusement ouverte par une giboulée, dame, on guette l'envol de la petite libellule. Vous savez, les spectateurs sont si peu charitables avec les animateurs de jeux en fin de droit. Les deux candidats lui font face maintenant sur le podium, frigorifiés, ce sont des notables. Les règles du jeu sont strictes. Entre candidats, aucun conciliabule n'est possible. Lucien Jeunesse pose sa première colle dans une atmosphère de catacombe. Il essaye d'adopter un timbre de collection, sa voix d'ancien chanteur d'opérette. Voici une question bleue de Monsieur Ilbon, d'Issoudun. Quel est le nom de cette femme bipolaire, avaricieuse, alcoolique, qui usait et abusait des adverbes, qui pissait comme les messieurs, et qui ne fit pas qu'écrire des bêtises, elle en filma aussi. Silence d'éprouvette sur la petite place de Briançon, transformée en patinoire. Et soudain, les deux candidats en chœur, Marguerite Yourcenar. Hélas non, c'est l'autre. C'est Marguerite Duras, c'est perdu, pauvre tandem de crétins! Hurla Lucien Jeunesse à bout de nerfs. Vous êtes d'une ignorance crasse, d'une bêtise maousse, dites donc tous les deux! Les deux candidats, l'un notaire, l'autre pharmacien, du village commencent à s'énerver. Ils sont élus, et les voilà humiliés devant leurs commensaux. Non mais dites donc, vous permettez de venir nous insulter chez nous alors que vous devriez déjà depuis plusieurs saisons passer là! Débroussailleuse dans les taillis de Riss-Orangis, dans la résidence de la Routourne, pour les monsieur loyal sur le retour. Lucien Jeunesse gifla l'avocat. Le pharmacien donna un coup de snowboot dans la rotule de l'animateur en hurlant le sarment d'Hippocrate qui fait à peu près ceci. Placebo, doliprane, tranxen, glyphanon. Lucien Jeunesse s'affaissa. Son échine dessinait maintenant une silhouette biscornue sur le sol croûté de givre. On l'évacua sur un brancard jusqu'aux urgences de la frontière italienne. Cet incident jeta un froid. Tout esprit ludique s'était brutalement volatilisé sur cette bonne ville de Briançon. Dès le lendemain, la grille des programmes fut changée. Et on cessa pour toujours de poser des questions idiotes à la radio et à la télévision française.
Patrice Comont. Allez, discours.
Chers pensionnaires, si je vous ai réunis dans le salon de notre belle maison de séjour prolongé, parce que médicalisé, les désespérides, Hanofle le château, c'est pour fêter le centenaire de notre illustre pensionnaire, Mademoiselle Duras, notre chère Marguerite. Ce n'est pas trahir mon serment d'Hippocrate, ni le secret médical, de dire qu'elle a tout de même pété un câble au niveau du téléphérique. Entre réel, Saint-Germain-des-Prés, et fantasme de Saïgon. Légèrement parano, elle voit des amants partout, elle entend le chant des marins de Gibraltar, et surtout des conciliabules, malveillant à son égard. Elle bave un peu, et bégaye beaucoup, mais cet handicap n'est pas nouveau pour elle. Son infirmière, c'est Denise. Et l'on entend souvent Marguerite, dans nos couloirs, crier son nom de Denise dans l'hôpital désert. Marguerite ensoleille l'après-midi de Monsieur Anselmas en jouant au Scrabble. Avant-hier, avec Catacombe, elle a fait 68 points avec un triple. Bien sûr, le jeu était un peu biscornu, car Monsieur Pérec, toujours aussi taquin malgré son grand âge, a piqué toutes les lettres E dans le sachet de Scrabble. Les E volatilisés, Marguerite a envie de tout détruire, dit-elle. Je vois bien que Marguerite trépigne dans le fond de la salle, elle qui voudrait danser pour son anniversaire, danser avec son tutu et ses jolies ailes de papier crépon. Elle voudrait danser le grand rôle de la libellule dans Peter Pan, car Marguerite est une fée, hein, Marguerite ? Oui ! Un peu de patience, Marguerite, pour sonner ta clochette. Tu ne vas pas te volatiliser tout de suite. Quelle jolie coiffure tu as aussi, ma Marguerite. Sans aucun doute, tu n'as pas fait barrage contre le pacifique brancardier qui t'a coupé les cheveux à la débroussailleuse. Si tu veux faire notre bonheur, Marguerite, Marguerite, si tu veux faire notre bonheur, lâche un peu ton stylo, ne serait-ce qu'une heure. Bon anniversaire, Marguerite. Un peu de sirop d'orgeat à la tienne et reste avec nous. Ne passe plus des jours entiers sous les arbres, dans le parc, mais viens sur le banc avec Jeanne Sourza et Raymond Suplex, des amis de ton âge.
Les papous, vive la sociale en public au studio 105, fin de la première partie. Une émission à podcaster proposée par Françoise Tressart avec Anne de Pelchin, Pierre Mine, Philippe Mercher, Yannick Magnien, attaché de production Marie Dalquier. On se retrouve dimanche à 12h50 pour la deuxième partie de ce numéro spécial Vive la sociale. Au revoir, passez un très bel après-midi bien au chaud et en bonne compagnie sur France Culture.